Viva. Sur Radio Esperanza. L'émission des jeunes.
Tous les jours, de 16h à 17h. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette deuxième émission de Ziva. Donc nous retrouvons autour de la table
Émilie,
Elliot,
Luciano
et Iñaki. Nous retrouvons aujourd'hui une association, donc Abeli. Donc je vous laisse vous présenter un peu ce que vous faites cette année au festival et etc.
Abeli n'est pas venue seule. Nous avons Nubo d'un côté et Nutrinette de l'autre pour mettre fin à ces monopoles terroriste.
Bien le bonjour, Terry Rock.
Moi c'est Agnès, bonjour.
Et Fredux, comme chaque année.
Et donc moi, ma première question avant de rentrer dans le thème de l'émission, vous venez cette année avec quel projet comme sensibilisation à Esperanza cette année?
On a toujours pas mal de choses à proposer. On propose par exemple de dégoogliser votre téléphone Android. Donc on a préparé une petite planche d'information. Si vous venez à notre stand, on peut vous expliquer comment vous libérer un tout petit peu, ou même si vous êtes prêt, entièrement de Google sur votre téléphone Android.
Alors aussi, Abeli, dans sa volonté de faire la promotion du libre, que ce soit les logiciels pour petit ou grand écran, a décidé aussi de montrer que les privilèges des affreux de l'informatique chère et vilaine, eh bien les privilèges sont enfermés dans une boîte noire. On a enfin trouvé la boîte noire, l'exacte boîte noire de tout ce qu'on appelle les GAFAM. Ça vous dit quelque chose, GAFAM ?
Pas du tout.
Oui, un peu, oui.
C'est un mélange de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple et de Microsoft, auquel on pourrait rajouter évidemment Instagram et WhatsApp et des petites choses. Donc genre, ça devient fort long. Mais donc c'est
les dévoreurs de données privées.
Ouais, ouais, ouais. La vie personnelle pour eux n'ont plus aucun secret. Voilà, donc au stand Abeli, sur la gauche, en rentrant dans le village des possibles, eh bien vous pouvez venir mettre la main dans une boîte noire. Voilà, donc c'est un peu, on fout la trouille, quoi, grosso modo. Mais après, on rassure très, très, très fort, très bien.
Et puis, si à un moment donné, on a envie d'aller encore plus loin que ça, il y a Nutrinette qui propose de s'auto-héberger. Donc, ça veut dire d'avoir chez soi, à la maison, les différents services, comme du mail, comme un cloud où on se partage fichiers, plein d'autres choses.
Et par exemple, qu'est-ce que vous proposez comme solution aux différents GAFAM ? GAFAM.
Non, il ne faut pas dire GAFA, parce que sinon tu ne dis pas Microsoft, le M GAFAM.
Oui.
Il fait bien partie de la bande des grands dévoreurs. Je peux parler de Nubo, parce que Nubo propose une partie des solutions. Nubo, c'est une coopérative en construction pour proposer des mails et cloud services divers, qui peut déjà remplacer pas mal de services que Google propose. Et sous forme de coopérative, ça veut dire... Une coopérative, c'est une entreprise où les utilisateurs sont des propriétaires aussi. Donc voilà, au lieu d'avoir un seul Google qui est propriétaire de tous nos mails, on peut tous ensemble être propriétaires d'une entreprise qui héberge, qui achète des serveurs, qui paye des techniciens. Et ensemble, on peut décider où est-ce qu'on veut le placer, ce serveur. Est-ce qu'il doit être sur le terrain belge, sous la législation belge, ou est-ce qu'on veut du cheap et le mettre en Chine, pour être un peu extrême. Voilà, mais l'idée, c'est d'être maître sur notre vie privée numérique.
Et surtout, mettre les utilisateurs en avant et pas le service.
Voilà, d'abord l'être humain.
Et donc, quand vous parlez de, vous avez parlé de privilèges informatiques et de boîtes noires, de quels privilèges parlez-vous, par exemple ?
Privilège du côté de quel côté de la force? De notre côté?
Des deux.
Ah, okay.
Autant lancer les deux d'un coup.
Bon, on peut monter un niveau un petit peu plus haut, au niveau législatif, la Constitution belge. Hein, donc le plus haut niveau de loi garanti par son article 22. L'article 22 de la Constitution belge garantit la confidentialité de la correspondance. Donc quand tu reçois une lettre, tu es le premier à pouvoir l'ouvrir et à en prendre connaissance du contenu. Et bizarrement, avec ces gros hébergeurs de courriers électroniques, eh bien tu seras le deuxième à lire tes mails. Parce que les ordinateurs de Gmail, pour ne parler que de lui par exemple, mais c'est aussi Microsoft, c'est Outlook, c'est aussi Yahoo, c'est, voilà, des grosses boîtes qui ont besoin des données personnelles des gens, vont aller directement regarder dans ta petite enveloppe. Et donc l'article 22 de la Constitution belge saute, c'est dommage. Donc ce que l'on propose, et avec des services comme Nubo, c'est d'être vigilant à cet article 22 de la Constitution belge, parce que c'est le plus haut niveau de la législation. Et si on fait sauter ça, ben c'est comme si Gmail était plus puissant que l'État belge.
Ce qui est le cas pour le moment, quasi.
Si tout le monde laisse ses emails chez Gmail, oui, tout à fait. Mais on peut devenir coopérant chez Nubo, par exemple, comme on a une excellente représentante parmi nous. Et donc là, on redevient un citoyen respecté et respectable.
Mais pour un tout petit peu déraper et partir vers l'Europe, effectivement, l'Europe a signé un accord avec l'article 15 et 17 qui met dans les mains des grandes entreprises le privilège de censurer ou non selon si c'est copyright, pas copyright, terroriste, pas terroriste. Donc, on a aujourd'hui une décharge des instances gouvernementales sur des décisions, de savoir la liberté d'expression essentiellement, vers des entreprises commerciales et qui vont s'assurer d'elles si on viole ou pas un des traités qu'ils ont discuté. Par exemple, on a vu récemment demander à Facebook que des vidéos terroristes soient bloquées en moins de 24 heures, ce qui est très louable, mais qui va décider que c'est une vidéo terroriste? Et aujourd'hui, cette décision appartient à Facebook, pour ne citer qu'eux, ou à YouTube, pour citer Google, alias Alphabet. Et donc, effectivement, pour l'instant, on a une décharge de... Le micro vient de tourner. On a une décharge...
C'est pas de la censure.
Des instances gouvernementales de pas mal de pays vers des GAFAM.
Et donc, par exemple, là, on a parlé de moyens de contourner, enfin, de plus ou moins contourner, de contourner Google. Mais par exemple, pour Microsoft, comment est-ce qu'on fait pour contourner Microsoft? Parce que si moi, je veux acheter, par exemple, un ordinateur qui n'est pas sur Microsoft, je fais comment? Je vais vers Mac ou je subis, entre guillemets, Microsoft?
Bah, tu peux subir Mac comme subir Microsoft. Les deux sont des logiciels propriétaires, donc ça va dans l'image de la boîte noire. C'est du code fermé. Aucun informaticien libre peut regarder et comprendre comment c'est construit. Donc moi, je conseille de... Quand tu achètes un nouvel ordinateur, ou même occasion, avec macOS ou Windows dessus, de d'abord le vider et de mettre Linux dessus. J'imagine que tu peux pas le faire seul, mais tu peux trouver, je crois, dans toutes les villes et régions, des groupes, des gens qui t'aident.
Mais donc, comment faire pour vider un ordinateur, justement?
Par exemple, tu peux charger une distribution Linux sur une clé USB qui est bootable. Bon, peut-être quelqu'un veut expliquer, devient peut-être un peu plus technique, mais de préparer une clé USB d'une certaine manière, ça on peut vous aider dans les groupes entraide régionaux à le faire. Après, il faut redémarrer son ordinateur et l'installation commence. Donc il efface tout ce qui était sur l'ordinateur avant. Donc si tu avais des données dans Outlook ou dans un autre logiciel, il faut le sauvegarder avant. Tu dis adios à tout ce qui était sur l'ordinateur avant et tu installes Linux. Et il y a des distributions vraiment très, très, très faciles à utiliser. Et hop, on est en liberté numérique.
À propos de la clé, c'est un peu comme une carte SD que vous parlez.
Oui, ça, voilà.
C'est une double carte SD, quoi.
Oui, c'est plus grand, tout simplement.
Qu'est-ce que vous voulez dire par libération
Par exemple, Windows 10, c'est la dernière version de Windows. Il y a des portes arrière. Donc, toi, tu as l'interface sur ton écran de Windows, mais Windows peut regarder de derrière. Qu'est-ce que tu fais ? Et moi, je trouve que ça, c'est pas vraiment la liberté de pouvoir faire sur ta machine en mode privé ce que tu veux, parce que Microsoft peut influencer ce que tu fais et peut aussi donner des informations sur toi au service secret américain, parce qu'ils ont signé un accord. Et pour moi, ça, c'est pas la liberté. Moi, je veux décider moi-même qui est-ce qui a des informations sur moi.
Juste pour donner un exemple, dans Windows 10, en bas dans la barre de tâches, il y a une barre de recherche. Il faut savoir que tout élément comptable dedans fait d'office une recherche vers Bing, qui est le moteur de Microsoft. Donc dès qu'on veut, admettons, chercher juste un fichier, on va commencer à taper son nom et on s'attend à trouver un fichier qui est sur son ordinateur. Mais en parallèle, on fait aussi une recherche sur Bing pour, si potentiellement on voulait faire une recherche sur Internet, elle apparaisse. Ce qui veut dire, au final, que tout ce qu'on recherche sur ton ordinateur est aussi recherché sur Bing, et du coup, Microsoft peut en être informé.
Et Microsoft étant une boîte commerciale qui veut faire du bénéfice, et vend aussi un peu de la culture. Elle vendait des livres électroniques, des e-books. Et ils ont décidé de supprimer le service e-book. Je suppose que ça ne rapporte rien. Donc les livres que tu avais précédemment achetés, que tu pouvais lire sur ton ordi ou une petite tablette Microsoft, eh bien ça ne t'appartenait pas. Ça appartenait à Microsoft. En supprimant e-book, eh bien, ils suppriment tous les bouquins que tu avais achetés. Je crois que tu peux te les faire rembourser d'une certaine manière. Mais bon, là, par exemple, petite chose. Donc c'est en ça où ce genre de privilège de Microsoft d'être propriétaire de tous les ordis qu'elle a réussi à faire vendre de manière un peu illégale, parce que, comme tu disais très bien tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir Windows dans un ordinateur, on peut très bien avoir Linux. Eh bien, ce phénomène de vente liée, de vente forcée, hein, comme si tu achetais une brosse à dents et que tu es obligé de toujours utiliser du dentifrice Colgate. Tu ne pourrais pas avoir du Sensodyne ou de l'Elmex. Voilà, tu vois, cette liberté du consommateur, là, ça part en sucette. Et c'est vrai que Microsoft 10 est devenu assez gourmand en information, parce qu'il donc, il peut vérifier sur ton disque dur si tu as des fichiers vidéo que tu as acquis de manière un peu illégale, ou en tout cas que tu n'as pas acheté, parce qu'en achetant par Internet, tu as une trace de ton achat et donc de ta semi-propriété sur ce fichier vidéo qui n'est que de la culture. Et donc Microsoft se réserve le droit d'effacer à distance des fichiers qui ne seraient pas conformes à sa charte commerciale. En tout cas, c'était déjà présent dans Windows Media Player 10. Ça m'étonnerait qu'il se soit amélioré dans le temps, mais je ne pense pas. Mais donc voilà, c'est ce genre de privilège que les gros industriels de l'informatique planétaire... voilà, effectivement, Linux, on peut l'installer à côté ou à la place de Windows sur un ordinateur. Ça répond à ta question ?
Oh oui, mais quel avantage a Linux sur Windows et au fond, quel privilège ça crée ? Où ça retire.
Attends, si je peux me permettre de te proposer de reformuler ta question, demande plutôt quels sont les inconvénients de Linux sur un ordinateur. Là, on peut te répondre aucun. C'est plus facile.
D'accord.
Sinon, la liste est longue.
Un des privilèges que Linux permet, et effectivement, il faut que des personnes qui soient formées ou qui ont la culture de lire du code, mais Linux permet à tout à chacun de pouvoir lire son code. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire comment les créateurs ont fait le programme. Ça veut dire que si jamais une collecte d'informations, peu importe laquelle qu'elle soit, serait inscrite dans le code, on pourrait la révéler et dire que c'est mal et demander sa suppression. C'est quelque chose qui est possible dans le monde de Linux. Effectivement, c'est pas tout à chacun qui peut lire du code, mais ça donne au moins la possibilité d'avoir quelqu'un qui lit du code.
C'est peut-être un peu comparable à si tu mets ton argent à une banque éthique qui est transparente, qui dit nous, avec ton argent sur ton compte d'épargne, on soutient des projets éthiques, ou une autre banque qui est complètement fermée, pas du tout transparent et qui finance peut-être des ventes des armes dans des pays en guerre avec ton argent d'épargne. Bah, tu préfères quand même la transparence de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton épargne.
Ton exemple est très bon, mais un qui marche bien maintenant, c'est d'équiper des enfants avec des grosses kalachnikovs et de les envoyer sur des fronts de guerre un peu bizarres. Parce que quand vous êtes petit, vous passez partout. Comme vous êtes petit, vous êtes rapide, hein, donc vous pourrez faire des bons guerriers. Il y a des banques qui financent ça.
Oui, on trouve ça pas chouette.
C'est vrai qu'il faut remettre cette condition en plus. On préfère vous avoir ici en radio que vous savoir sur un champ de guerre prêt à sauter sur une mine.
Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale sur ces deux mots.
Super.
Je vous propose Zéro de Imagine Dragons.
Say the most, find a little bit of steady as I get close, find a balance in the middle of the chaos, semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December, 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time, but looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely, I don't want to hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. Find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't want to hear about what to do, no. I don't want to do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be.
Radio Esperanza.
Donc voilà, c'était Zéro d'Imagine Dragons. Donc nous sommes toujours avec l'association Abeli pour parler des privilèges et aussi, par la même occasion, on peut peut-être un peu déborder sur le monopole informatique. Parce que je pense que les deux sont liés, ou je me trompe ?
Non, pas du tout. Je pense là où il y a des monopoles, les grands acteurs numériques se prennent le privilège de faire tout ce qu'ils veulent avec ta vie privée. Mais monopole, c'est un bon mot-clé. Je crois on pourrait prendre l'exemple de YouTube, que je crois tout le monde connaît et tout le monde utilise. Qui ne l'utilise pas. Bon, voilà, aucune main. J'aimerais bien vous donner l'exemple de Peertube, qui est le contraire de YouTube. Peertube fonctionne avec le principe peer-to-peer. Donc, le logiciel qui héberge les vidéos est installé sur plein de machines, au lieu d'une seule chez YouTube qui appartient à Google. PeerTube, c'est installé sur une multitude d'ordinateurs et a le même fonctionnement que YouTube. Tu peux uploader des vidéos et tu peux regarder des vidéos. Voilà, sauf que le pouvoir est distribué parce que tout le monde se partage d'héberger une partie de l'ensemble des vidéos. C'est la décentralisation des pouvoirs et des privilèges, du coup.
L'avantage d'avoir des instances PeerTube, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est que du coup, on peut avoir une ASBL ou une association qui s'occupe d'une instance et qui peut potentiellement héberger des contenus qui sont un peu plus borderline, dans le sens où légal dans le pays où elles sont transmises, mais illégal dans d'autres pays, à l'inverse de YouTube, où YouTube va plutôt appliquer la loi américaine et uniquement celle-là, et sans respecter les autres lois. Donc, les instances PeerTube permettent aussi de pouvoir légalement, dans son pays, héberger des vidéos qui seraient illégales en Amérique. Je pense surtout à, par exemple, la nudité qui est complètement bannie aux États-Unis, au point où on a vu pas mal de tableaux très célèbres sur Facebook être censurés pour pornographie, alors que c'était juste des peintures et que c'était tout à fait commun dans la culture européenne.
Oui, et que c'est de l'art. Donc voilà, les algorithmes ont certains privilèges d'aller vite, mais de faire beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est le fait de nous, en tant qu'humains, de ne pas être traités comme un algorithme. On est un petit peu plus beau que ça, non?
Mais quand vous, en début d'émission, vous avez dit que vous aviez aussi un moyen pour contourner Android, c'est en mettant un autre logiciel ou c'est avec d'autres applications qui permettaient d'être aussi en mode logiciel libre?
En fait, ce que j'avais dit, moi, c'était de dégoogliser son Android. Donc là, c'était l'idée de garder Android sur ton téléphone, mais de le libérer de Google. Mais on peut très bien aussi enlever Android de son smartphone et mettre autre chose dessus. Mais ça, c'est une étape plus loin. Et je crois que c'est mieux de commencer petit à petit et de se dégoogliser petit à petit. Donc on peut remplacer, par exemple, Google Maps par OpenStreetMap. Donc petit à petit, remplacer un logiciel propriétaire qui envoie des informations à Google. Toi, tu l'utilises, mais Google, tu utilises en même temps. Donc de virer Google Maps, c'est d'utiliser OpenStreetMap, de virer l'application de mail de ton Gmail, d'utiliser Kmail. Et donc nous, sur le stand d'Abeli, là, dans le village du possible, on a préparé toute une fiche avec des QR codes où vous pouvez tout de suite regarder si vous avez envie de tester l'un ou l'autre application. Il y a aussi, par exemple, Signal ou Riot pour remplacer WhatsApp. Donc si vous utilisez avec tous vos potes WhatsApp ou Messenger, pourquoi pas essayer Signal avec un, deux ou trois, quatre potes. Et petit à petit, 5, 6, 7, 8, 10, et de vous dégoogliser et vos amis en même temps. Ou dans le cas de, de WhatsApp, de vous défacebooker un petit peu. Donc il ne faut pas tout vouloir changer en une fois, mais petit à petit, remplacer une application par une autre et de se libérer de l'emprise de ces grandes entreprises américaines.
Mais qui a inventé PeerTube?
En fait, beaucoup de gens ensemble, c'est ça la force de logiciel libre, qu'il y a plein de gens qui ont des idées, ils se parlent et petit à petit, on écrit ensemble des outils et des logiciels. Et ça, c'est vraiment la force des logiciels libres, que c'est toute une communauté et on crée ensemble. Et c'est pas une entreprise qui est propriétaire, mais ça appartient à tout le monde.
Ça existait ça existait quand?
C'est assez nouveau, depuis un an et demi.
Oui, j'ai dit deux, trois ans. C'est effectivement un projet comme ça.
Et ça, c'est juste dans le cas de PeerTube. Si on prend des plus vieux, pour moi, le ciel qu'on connaît, qui est Linux, il a été créé dans les années 80.
Il est vieux, oui.
Et il est vieux.
Donc le concept du logiciel libre est vieux. Et l'idée que les choses nous appartiennent tous à tout le monde, ça, c'est la base des logiciels libres. Et ça, on trouve ça très intéressant.
Donc on est un petit peu dans une espèce d'habitude, pour des raisons commerciales, de copyright, de propriété privée. Et avec le logiciel libre, on rentre dans un concept qui est un peu choquant, c'est la propriété collective. quelque chose qui appartient. Ah, voilà, tu fronces les sourcils, c'est Exode. Ryan Yaki, tu es splendide. Je savais que ça pouvait faire cet effet-là.
Hein. Le stéréotype.
Voilà, non, mais donc, on parle du bien commun. Il y a d'autres émissions ici à Radio Esperanza où on en a parlé. Donc, il y a quelque chose qui appartient à la nature humaine, l'air, l'eau, la terre, hein, des choses qu'on ne peut pas privatiser, sinon il faut commencer à payer pour respirer. Et là, avec les logiciels libres, on est aussi dans cette notion de propriété collective. C'est quelque chose qui appartient, c'est du bien commun pour les ordinateurs et pour les petites cartes SD.
Et qui a décidé que PierreTube était l'inverse de YouTube ?
Qui a décidé ça? Je crois que c'était l'idée de base. Il y a des gens qui voyaient que YouTube existe, les concepts ne nous convient pas, qu'il y a une seule entreprise qui est propriétaire de tous nos vidéos et on fait ce qu'il veut et décide de quoi censurer. Ça ne nous plaît pas, il faut faire autrement, on fait le contraire. Donc c'était l'idée de base. Je ne sais pas si c'était une personne, c'était plutôt le résultat d'une conversation.
Et c'est pour ça que ça s'appelle PierreTube, c'est ça?
Oui.
Et le pire, c'est Apple ou Microsoft?
Ah, le pire, pas le pire comme PierreTube, mais le pire. Ça, je sais pas.
C'est compliqué à répondre parce que le problème d'Apple aujourd'hui, c'est qu'ils ont une démarche qui vise à protéger la vie privée de ses utilisateurs, en tout cas de leurs clients. Et c'est ça qu'ils vendent. Ils vendent le fait qu'ils protègent la vie privée. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à une entreprise commerciale pour protéger une vie privée? Sachant tous les scandales qu'on a vus ces dernières années. Donc pour moi, il n'y a ni pire. L'un n'est pas pire que l'autre, ils sont tous les deux pires.
En fait, vous parlez de toutes les applications, mais en inverse. Play Store, tout ça, Google Maps, WhatsApp, Google, voilà, Chrome, donc c'est tout en inverse.
C'est ça, c'est l'alternative.
Par contre, je ne comprends pas, vu que c'est Play Store qui a toutes les applications... L'inverse, c'est quoi?
C'est fdroid.org.
Ça, tu peux apprendre sur notre stand dans le village des possibles comment l'installer. Et ça, c'est un Play Store alternatif avec que des logiciels libres.
Et votre stand, il est vers où?
Dans le village du possible, quand tu entres, c'est à gauche.
On est tout à fait contre le mur, de gauche, en rentrant dans le village des possibles. Et là, donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, ce qui remplace Android, c'est Lineage OS. C'est le nom d'un système d'exploitation. Donc c'est vraiment le premier programme qui se lance quand on allume l'ordinateur. Hein. Et après, on va ajouter Google Play Store, si on reste dans Android pur. Mais comme on sera dans Android pur, on peut installer donc un Google Play Store qui est fdroid.org. Et c'est légal, hein, ne vous inquiétez pas. Vous ne risquez rien d'installer ça. Vous ne faites pas quelque chose qui est interdit, loin de là. Et là, vous avez quantité de programmes qui sont issus du monde du logiciel libre. Donc, vous avez toujours accès au code source, de voir comment le programme a été écrit, donc savoir comment il fonctionne. Et comme ce n'est pas lié à une régie publicitaire, donc Google a racheté plein d'agences de pub, et donc va mettre de la pub partout, même dans les vidéos YouTube. S'il y a effectivement quelqu'un qui peut se dire « Oh, je vais faire des petits sous parce que YouTube va me repayer parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent chez moi, donc il y a beaucoup de gens qui voient la publicité de Google », eh bien, c'est un des travers, un des défauts de cette économie fort agressive.
Et même certains vidéastes qui ne veulent zéro publicité sur leurs vidéos, même s'ils les déposent sur YouTube, ont de la publicité. Pourtant, c'est leur contenu, ça leur appartient. Ils demandent à Google de ne pas avoir de la publicité et Google en met quand même.
Comment vous pouvez faire ça si les appareils électroniques comme le téléphone et l'ordinateur évoluent?
Mais les logiciels libres évoluent aussi, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a toute une communauté de développeurs et de gens qui créent ensemble. Bah, ça ne s'arrête pas au moment où tu dis « voici l'application ». Le lendemain, on l'améliore. Comme on est toute une communauté, on est nombreux, on fait ensemble, on améliore chaque jour.
C'est comme l'histoire du singe et l'humain qui évolue. Oui.
Voilà.
C'est une belle image, ça.
Pas mal. Mais... Il y a certains qui redeviennent singes devant un micro.
Je n'ai jamais oublié d'où on vient, c'est au salon où on va.
Mais la seule question que je me pose, enfin une des questions que je me pose, avec le changement, par exemple, d'Android OS vers, j'oublie le nom.
Lineage OS.
Oui. Comment est-ce qu'on fait vu qu'on ne sait pas accéder sur le téléphone au code source, Parce que je sais que sur Linux, par exemple, on a accès à un terminal, mais par exemple sur Windows, sur Mac et sur Android, on n'y a pas accès directement, donc comment faire pour changer ?
En fait, de base, Android, c'est un logiciel libre. La partie qui le rend propriétaire, c'est ce qu'on appelle les Google Play Services, donc qui sont un ajout à Android que Google met et qui apporte beaucoup de facilité aux différents développeurs d'applications d'utiliser leurs services Google. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines applications qui tournent très très bien sur un Android ne peuvent pas tourner sur un lignage OS parce qu'ils utilisent des services Google. Mais le cœur d'Android est libre. C'est comme ça que le lignage OS a pu naître. C'est en fait Android épuré du Google Play Service.
Mais comme si toutes vos applications sont l'inverse et qu'il y a des applications qu'on ne peut pas utiliser sur l'ordi, ben, y a des applications qui sont juste sur le téléphone.
Mmh. Oui. Mais ça, ce n'est pas seulement lié au logiciel libre. C'est aussi le cas avec beaucoup d'applications sur le Play Store qui sont propriétaires, mais tu ne peux pas les utiliser sur le laptop ou le desktop. Ça, c'est déjà le cas. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a des applications qui sont faites pour fonctionner sur un téléphone.
Mmh, mmh. Donc toujours, comme objectif à garder, est-ce que ma vie privée est respectée ou pas ? Est-ce qu'on a mis une petite caméra dans mon slip ? C'était vendredi hier, c'est encore un peu vendredi aujourd'hui. Non, mais je dis, la vie privée va jusque-là. Par vie privée, on est allé un petit peu plus haut, c'est de parler d'intimité numérique. Et cette vie privée, elle est celle de... Voilà, est-ce que tu as une porte à ta salle de bain ? Ben oui, et c'est normal de la fermer quand tu prends une douche, parce que c'est ton intimité, tu n'as pas envie de te montrer nu devant tout le monde. Eh bien, c'est la même chose avec le numérique. C'est là aussi où on peut retrouver une vie privée et surtout de demander le respect. Et tu ne peux pas demander le respect à des sociétés commerciales qui ont besoin de ta nudité numérique pour se faire plein d'argent. Et donc, si on ne peut pas leur demander d'être moins voyeurs, entre guillemets, d'être moins curieux, on prend l'alternative et on va installer Lineage OS plutôt qu'Android et on va installer GNU Linux pour parler du pourquoi le Linux et le logiciel libre est libre, c'est à cause de GNU et à cause de Grace. Et à ce moment-là, rien que quand tu allumes ton ordinateur, tu es dans une zone safe.
Mais...
Comme le jardin des enfants ici derrière, là où on ne peut pas vous prendre en photo n'importe comment.
Mais faut pas non plus faire des applications trop bien, sinon les gens vont rester tout le temps scotchés sur leur téléphone, sur leur ordi.
Ah oui, ça c'est un argument.
Ou alors sur leur tablette.
Ouais. Alors là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les black patterns, qui sont en fait effectivement une volonté de l'application, en tout cas des développeurs, de garder les gens attirés par leur application. Et ça, actuellement, dans la Silicon Valley, ça fait énormément de bruit parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui se rendent compte de l'addiction qu'ils ont apportée à leur application et qui, aujourd'hui, même conseillent à leurs enfants de ne pas l'installer.
Mmh. Mmh. J'avais pensé à ça, oui.
Mmh. De toute façon, mon papa, il ne veut pas que j'installe des applications payantes. Moi, de toute façon, toutes les applications que je trouve ne sont pas payantes, mais il faut avoir beaucoup, beaucoup de mégas. Au moins 400.
Mmh, ouais, voilà.
Il a sans doute raison.
Oh. Il a vraiment raison. Mmh. C'est pour notre bien, de toute façon.
Ça, tu peux être sûr.
C'est chouette d'un cours de morale. J'ai l'impression que c'est...
Sinon, ce serait pas mon père.
Ouais, ouais, voilà, effectivement. Mais bon, maintenant, ton papa, tu peux lui parler de logiciels libres, de GNU Linux, tu peux lui parler de F-Droid. Les applications que tu vas mettre là-dedans ne sont pas gourmandes en mégaoctets et elles ne coûtent pas cher parce qu'elles sont légalement gratuites. Donc tu ne dois pas craquer un programme, tu ne dois pas essayer de le pirater.
Bah, tu peux venir avec ton papa voir notre stand.
En France, dans des magasins et aussi en Belgique, y a, dans des magasins, ben, y a des ordinateurs piratés.
Comment tu sais ça ?
On me l'a expliqué en France.
Oh mince !
D'ordinateurs piratés dans les magasins. Mm-hmm. Donc, et ça se peut que la calculatrice se trompe et que vous donnez plus d'argent.
Ah ouais, donc 2 plus 2 égale 5.
Ouais. Parfois, ça peut être pas le client, mais à la caisse. La madame qui travaille à la caisse peut pirater l'ordinateur elle-même pour avoir plus d'argent. Parfois, c'est des autres personnes.
Ah, c'est génial, on est en plein de science-fiction là. Ça me plaît, je crois que je vais faire caissier le magasin aussi alors.
Mais c'est pour ça que les caissiers, enfin, tu peux, avant de faire l'achat, tu peux compter l'argent que c'est censé coûter.
Mmh. Pour être sûr. Et pour être sûr aussi, il faut voir sur l'étiquette l'argent. Et parfois, ils ne peuvent pas mettre l'étiquette, donc si tu n'as plus d'idées, tu es obligé de donner plus d'argent. Ouais. Ou alors appeler à la police.
Ouais. Eh bien, je vous propose, sur ces bonnes paroles, de nouveau, de passer un petit morceau de musique.
Allons-y.
Eh bien, un petit Supermassive Black Hole de Muse.
Et après, on peut parler de Minecraft, là, qui est sur ton ordinateur, l'autocollant, là, derrière.
Oui. Ouais.
Bah, si vous
Minecraft,
voulez.
Minecraft, racheté si, par Microsoft, si on a tous pleuré.
Bah, non, c'est pour dire, voilà, on va aller en parler de Mindtest, après, si tu veux, un petit peu.
Ça va.
C'est l'inverse.
C'est de l'alternative, c'est pas l'inverse. C'est...
Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Et donc, c'était Supermassive Black Hole de Muse. Et nous allons avoir la météo de Lulu.
À 17h et à 18h, il fera 23 degrés et ça descendra petit à petit. Le temps est nuageux et le coucher du soleil est à 21h21. Et voilà, ce sera fini pour aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup Lulu. Et donc, je pense que Frédux, tu voulais enchaîner sur... sur quelque chose.
C'est parce que j'ai un bel exemple de ton autocollant Minecraft sous les yeux. Et donc tu me disais que ça avait été racheté par Microsoft.
Oui, Minecraft a été racheté par Microsoft et c'était vraiment dommage parce que c'est passé quand même de 7€ à 15€, puis 21, puis 24. Donc c'est cher.
Il n'y avait pas que ça. Hein. Microsoft a tout un projet d'éducation pour capturer les jeunes comme vous êtes dans leur modèle éducation avec Minecraft. C'est surtout une grosse bataille qui se déroule aux États-Unis.
Surtout, j'aimerais savoir si c'est Roblox qui a existé en premier que Minecraft ou Minecraft. Minecraft. Vu que c'est du même thème.
Minecraft, ça a été fait en 2009 et Roblox est né très très tôt, effectivement aussi. Mais c'était encore une bêta. Il n'y avait pas beaucoup de projets et tout. C'était pas très connu Roblox.
Roblox n'est pas très connu, c'est vrai ça. Par contre, je crois qu'en fait, Roblox, ils ont voulu l'améliorer en Minecraft. Je crois que c'est ça.
Ben, en fait, sur Roblox, il y a plus, y a une, on peut plus créer nous-mêmes parce qu'il y a un moyen de création soi-même. Comme si tu créais ton propre logiciel, mais tu créais ton monde pour que les gens jouent dessus. Et aussi, le fait qu'on peut faire payer le jeu qu'on a créé. Et voilà. Mmh.
Donc, pour info, Mindtest est toujours gratuit et il y a une communauté énorme là autour qui permet de rajouter des mods à la Mindtest de base et que Mindtest existe pour grand écran et petits écrans de smartphones et de tablettes aussi.
Moi, j'ai vu un film où il y avait un garçon qui a inventé tout seul avec son ami une application. Mmh. Je sais pas comment elle s'appelle.
C'est gai, hein, c'est comme quand tu fais des crêpes toi-même. Plutôt que d'acheter de la poudre Dr. Oetker où tu rajoutes 25 centilitres d'eau tiède dedans, tu secoues un peu et tu manges un truc dont tu ne connais pas du tout la composition.
En parlant de ça, j'ai un livre d'astronaute et on mange tout déshydraté dedans.
Voilà. On le réhydrate avant.
Ouais, ouais.
Mais ça c'est vrai, aujourd'hui on a quelques applications qui permettent à des jeunes comme qui a autour de cette table de pouvoir faire de la programmation. Et on avait reçu ça dans Source.
Scratch par exemple.
Oui. C'est très abouti effectivement comme projet. Qui a déjà un peu codé ici? Ouais.
Ouais mais c'est compliqué. Hein. J'ai essayé. Ouais, c'est chaud.
Oui, voilà, mais bon, bosser seul dans son coin, c'est toujours un petit peu embêtant, mais il y a des endroits, des moments où on se rend compte qu'il y a plus dans deux têtes que dans une, et a fortiori dans cinq que dans quatre. Hein. Je crois qu'il ne faut vraiment pas bouder ces endroits et ces moments où on est dans l'échange. C'est le principe communautaire hein, dont on parlait tout à l'heure avec Agnès pour le fait que des programmes évoluent, des services évoluent, des solitudes s'effacent parce qu'on est copain avec un tel. Quoi.
Je ne comprends pas pourquoi on a inventé les applications que vous nous avez parlé s'il y a l'inverse.
Tu veux dire des applications où on n'exploite pas ta vie privée? Pourquoi on invente ça? C'est pas évident.
Pour pas exploiter la vie privée.
Pour sauvegarder ta vie privée, parce que nous, on pense que c'est une valeur qui nous est chère, qu'on trouve vraiment que ça vaut la peine de la sauvegarder. Des gens qui pensent que la vie privée, c'est du passé. Et maintenant, les grosses entreprises ont le droit de se servir, de faire tout ce qu'ils veulent avec te surveiller et ton comportement et ton utilisation des ordinateurs.
Mais bon. Si ça ne dérange pas la personne qui a l'application...
Oui, mais il faut encore se rendre compte de c'est ce que ça veut dire. Hein.
Juste pour donner une phrase très très célèbre d'Edward Snowden qui dit les gens qui pensent que se passer de la vie privée c'est bien, c'est du coup comme dire on supprime la liberté de parole, enfin sa parole, parce que nous ne sommes pas libres de parler.
Mais donc, comme on était dans la science-fiction tout à l'heure avec des calculatrices qui font 2 plus 2 égale 5, là, on est dans un cadre concret, mais un petit peu plus haut. Et on a le cas de la Chine, par exemple, maintenant. Ils ont mis des caméras partout dans les rues et avec une capacité de calcul énorme, ils savent exactement où est Lulu, qui est Lulu, parce qu'ils savent lire sur ton visage, ils savent que c'est toi. Et il y a ce principe de contrôle social qui fait que maintenant, le gouvernement chinois peut voir qui traverse quand le feu est vert. Pour les voitures, hein, qui jette un papier par terre. Et à ce moment-là, tu commences à avoir un bulletin. Hein, donc ta vie de tous les jours est légèrement surveillée avec des moyens électroniques énormes. Et ça permet à ce moment-là d'avoir des gens qui vont devenir ultra obéissants parce qu'ils savent qu'ils ne doivent plus jeter un petit papier par terre. Ils savent surtout qu'il ne faut jamais dire que le président chinois est un clown.
Mais qui a eu l'idée d'inventer toutes ces applications?
Les applications de capitalisme de surveillance, comme on l'appelle, ce sont des capitalistes qui veulent faire de l'argent avec leurs produits. Donc, leur produit, c'est un échange d'un email gratuit contre ta vie privée. Et après, ils vendent tous les infos sur ta vie privée à des gens qui l'échangent en argent.
Mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a des personnes qui font des... Pourquoi il y a des personnes qui pensent qu'au mal? Ils pensent qu'à l'argent et ils pensent qu'aux écrans.
Ça, je ne comprends pas non plus. J'aimerais bien le savoir.
Il y en a qui vendent des applications pour avoir de l'argent sur leur compte et pour que les personnes ne se souviennent pas de leur famille.
Ouais. C'est très bizarre. Il y a des gens pour qui l'argent est le plus important au monde. Ça, je ne comprends pas non plus.
Mais aussi, ce que je ne comprends pas, c'est que la vie, elle se paye. Elle se paye. L'eau, si on n'en a pas, pendant 2 jours, t'es mort. La vie, elle se paye. C'est bizarre, ça.
On doit changer ça. On a du boulot et on ne doit pas accepter tout. On doit créer le monde qu'on veut avoir. Donc, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas être un consommateur qui fonctionne comme les entreprises le veulent. Il faut... Restez militant.
En parlant d'applications, si jamais on passe sous Linux, est-ce que les applications qu'on avait sous Windows ou par exemple sous Mac, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes applications sous Linux?
Les mêmes fonctions de l'application. Elles vont changer de nom et elles vont juste changer de couleur. Mais tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, traitement de chiffres, traitement de lettres, traitement de son, traitement d'image, tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, on le fait aussi.
Mais Play Store, l'inverse de Play Store, à quoi ça sert si ça a le même thème?
Mais pas les mêmes applications.
Les mêmes... Ah oui.
Les mêmes fonctionnalités, ouais. Mais sans exploiter ta vie privée.
Ouais. Mais par exemple, sur Linux, il y a peut-être certains jeux qui sont seulement disponibles sur Windows et pas sur Linux. Et ça, c'est dommage.
Oui, c'est dommage. Mais il y a toujours la possibilité pour les grands fans de jeux de garder Windows à côté de ton Linux installé et de juste utiliser Windows quand tu veux jouer. Et le reste de la journée, tu passes sur Linux qui respecte ta vie privée.
Moi, j'aurais bien voulu inventer les téléphones, mais pas inventer des jeux trop cheatés, tout ça. Sinon, on serait resté sur nos écrans, prendre des photos, ça va, faire des vidéos et tout ça, ça va. Mais si c'est pour gagner de l'argent, c'est nul. On a inventé YouTube, je crois, pour que toutes les personnes aient de l'argent.
surtout
les YouTubers.
À la base, YouTube, c'était vraiment une plateforme où tout le monde pouvait déposer sa vidéo et c'était juste pour plus la partager. C'est ensuite qu'il y a eu un marché où ils se sont rendus compte que on pouvait se faire de l'argent. Mais à la base, c'était comme Dailymotion, un nom qu'on a sans doute oublié, qui était un YouTube français.
En fait, c'est YouTube, il est inventé pour que les gens se connaissent plus. Comme ça, ils se font des amis et tout ça.
Il y a eu la même chose sur Twitch. Sauf que c'est des lives et... Même les gens qui ont décidé de ne pas mettre de pubs sur leur live, ils se prennent quand même des pubs au début et à la fin pour que Twitch gagne de l'argent.
Mais oui, voilà, on parlait de monopole tout à l'heure. YouTube, au départ, c'était un service privé, entre guillemets, avant d'être racheté par Google. C'est pas Google qui a inventé YouTube, c'était déjà préexistant. Donc,
Microsoft a racheté Google, qui a racheté YouTube.
Non, mais Microsoft n'a pas encore racheté Google. Ils sont un peu en concurrence.
Microsoft et Google, c'est deux grandes entreprises.
Google a racheté Chrome et Chrome a racheté YouTube.
En fait, Google, ils achètent une entreprise par semaine, plus ou moins. Ils achètent tout le temps des choses créées par d'autres, mais dès qu'ils voient que ça fonctionne, c'est utile pour leur manière de faire du marché, ils achètent.
Ouais. Et là encore, on est dans des entreprises qui font de l'informatique. Mais ça permet à Google aussi de racheter des sociétés qui sont plus dans le biomédical.
La dernière question sur YouTube. Pourquoi on a inventé YouTube Premium si on a déjà YouTube normal ?
En fait, YouTube Premium, t'as plus de pub. YouTube Premium, t'as plus de pub, mais du coup, t'as aussi... tu dois payer un abonnement. Et donc, peut-être que c'est plus rentable YouTube Premium... pour eux et aussi pour toi. Donc, ils veulent faire payer quelque chose de plus rentable.
C'est pas plus rentable parce qu'ils savent que la majorité des gens ne vont pas payer. Le YouTube Premium ne permet juste qu'à une poignée des gens qui vont l'acquérir d'être encore plus dans YouTube. En fait, YouTube Premium, c'est pas pour ne plus avoir de publicité. Le but derrière, c'est juste que vous restez encore plus longtemps.
Ah oui, ça c'est vrai, parce que t'auras déjà plus de pubs, ça t'ennuiera moins. Moi, ma demi-sœur, qui aime bien son téléphone, ben, dès qu'elle voit, elle va jamais sur YouTube Premium, parce qu'elle aime bien quelques publicités, elle les aime bien. Comme ça, elle peut regarder si elle les installe. Mais moi, j'aime aucun de ces YouTube, j'aime bien YouTube pour regarder mes vidéos, mais pas pour des pubs. Sinon, je serai encore plus sur les écrans, encore plus. Sinon, tu voudras installer ça, ceci et cela. Donc, moi, je regarde jamais les pubs. Mais je veux bien les regarder, mais pas les installer.
Mais même si tu n'es pas obligé de les regarder, bon, évidemment, c'est mieux. Tu achèterais éventuellement ceci, cela ou une cucucherie en plus. Mais pour eux, c'est intéressant de savoir que leur publicité a été appelée par... X millions d'ordinateurs qui ont regardé cette vidéo-là. Ça leur suffit. Hein, donc après YouTube, compte régie publicitaire, il peut dire à son vendeur de super chaussures qui commence par N et qui finit par E, eh bien, si tu mets un peu de sous chez moi, je te jure qu'il y a 600 392 400 pigeons qui vont regarder ta publicité pour nique ta chaussure.
En parlant de monnaie, il faut déjà pas exagérer en monnaie. Mon ami... Un de mes amis qui habite tout près d'ici, il dit 20 euros, c'est déjà bien pour moi. Ma maman, elle est beaucoup trop gentille avec moi. Elle me donne 100 euros par jour. Je ne comprends pas. Pourquoi on a inventé l'argent ?
Alors là...
Je ne sais pas si cet après-midi suffit pour discuter ça, mais c'est un bon sujet intéressant.
Donc voilà, YouTube, ton tube. Oups.
Ça ferait un très bon slogan.
Voilà. Donc nous avions nubo.co pour votre vie privée épistolaire numérique et hébergement de fichiers, cloud et compagnie. Bio, sans glyphosate, sans Roundup, sans perturbateur endocrinien.
Sans pub.
Une question sur Play Store. Play Store, comme elle a plein d'applications, comme il y a plein d'applications sur Play Store, les applications qui sont dans Play Store sont aussi inversées ?
Certaines oui, certaines non. Tu vois, mais pourquoi quand tu veux installer un petit programme dans ton Play Store pour jouer avec ton doigt et faire des petits dessins sur ton écran, pourquoi ce programme te demande d'avoir accès à la liste de tous tes amis, à la liste de toutes les photos que tu as prises dans ton ordinateur, dans ton petit ordinateur de poche ? Pourquoi il veut avoir accès à toute ta carte SD, hein ? Juste pour pouvoir dessiner avec ton doigt sur l'écran.
C'est
pas normal ça, tu vois, ça c'est pas normal du tout qu'une société qui a un programme qui est juste pour dessiner te demande d'avoir accès à toutes des informations qui sont quand même précieuses,
mon cousin, quand il avait 4 ans, ben ses amis jouaient super beaucoup à les jeux vidéo. Ben mon cousin, Ben, alors, après, ses amis lui ont demandé, quelques ans après, si tu voulais des jeux vidéo. Puis, il a dit comment ça marche. Puis, quand il a apprécié, il reste scotché. Mm-hmm. Il n'arrête plus vraiment.
Mm-hmm. Ben voilà, tu vois, donc il y a des glissements comme ça. Je discutais tout à l'heure au stand de Abeli, au Village des Possibles, avec quelqu'un qui cherchait l'inverse, on va dire l'alternative de Skype. Mm-hmm. Ouais, programme de vidéoconférence. Et ce monsieur me disait qu'il était agacé qu'à partir du moment où il a une conversation avec quelqu'un sur Skype, eh bien, il retrouve des publicités dans Microsoft qui sont en lien avec des mots qui ont été échangés entre eux sur Skype.
Hein? Ben pourquoi on a mis les jeux sur le téléphone, sur les écrans? Pourquoi on les a mis à évoluer si on va encore rester plus sur les écrans?
Bah pour que tu mettes de l'argent dans le jeu et qu'ils gagnent de l'argent.
Ouais. Ben voilà, donc on parlait tout à l'heure, donc c'est en informatique, dans les écoles, on apprend la programmation, on appelle ça la captologie, le fait de capter l'attention des gens. Et il y avait un super professeur dans une université aux États-Unis, je ne sais plus comment il dire, qui était donc le super spécialiste de la captologie. Tous les développeurs et développeuses venaient le trouver pour lui demander des conseils, des trucs. Comment on fait pour garder les gens captifs devant un jeu? Et donc ce monsieur, maintenant, se mord les doigts. Il s'en veut énormément parce que chaque fois qu'il rentre dans un café à Los Angeles, eh bien, il se rend compte que ce café est silencieux. Tout le monde est devant sa petite tablette, son petit écran, son petit smartphone. Il s'en veut. Il se dit, merde, j'ai fait gagner pas mal d'argent à plein de super développeurs. Et là, maintenant, ben, il en paye les conséquences. Avant, dans les cafés, quand on rentrait, ça causait, ça discutait. Tcha-tcha, salut toi, comment ça va? Nanana, viens, je t'offre un café. Et là, maintenant, ce sont des lieux d'un silence mortel.
Maintenant... Pourquoi inventer plein de jeux si on peut en inventer un, juste un seul?
Oh, ça je suis pas d'accord, moi j'aime bien la diversité. Hein.
Ouais, et en plus s'il y avait qu'un seul jeu avec tous les jeux qui existent, et ben ça serait le même développeur et toujours la même personne qui gagne de l'argent.
La diversité est quand même plus intéressante que la monoculture.